Artus, sa sœur Gabrielle et leurs parents sont partis ensemble dans la forêt. Les parents envoient les enfants chercher des champignons en leur demandant de ne pas aller trop loin et de marquer le chemin avec des cailloux. En s'enfonçant dans la forêt sombre, Artus et Gabrielle découvrent dans une clairière d'étranges champignons géants. 45 ans plus tôt, la jeune Jeanne se rend chez Marthe, une vieille femme vivant à l'écart du monde. Marthe l'avertit que les gens du village pourraient l'accuser de sorcellerie et qu'il vaut mieux ne plus venir la voir. Jeanne est triste car elle est très attachée à Marthe qui lui a déjà appris beaucoup de choses. Après le départ de Jeanne, un groupe d'hommes armés s'approche de la maison de Marthe.
Chapitre 4. La confession est terminée. Les gens sortent de l'église. Il n'y avait pas grand monde, quelques personnes âgées et quelques adolescents venus sur ordre parental. Jeanne attend devant le portail. Un peu plus loin, la belle Aldara vient rejoindre ses amis. Elle n'est pas allée à la confession. Elle a beaucoup de succès auprès de ses copines parce qu'elle attire les regards. Elles s'en vont ensemble en causant et en s'esclaffant sans adresser la parole à Jeanne. Jeanne en a l'habitude. Le prêtre sort de l'église. Jeanne prend son courage à deux mains et lui adresse la parole.
Merci encore, mon père.
Le prêtre lui adresse un sourire bienveillant.
Tu as bien fait de venir. Fais attention à toi, mon enfant.
Le prêtre la regarde partir.
Ceux qui auraient vraiment besoin de se confesser ne viennent jamais. Oui, elle a péché. Mais elle a un bon cœur, cette fille. J'espère qu'elle va suivre mes conseils. Ne plus recommencer avec ce jeune homme. Se repentir et se purifier de son péché. Dire « deux sangs, mon père » et on n'en parle plus. J'ai comme un sentiment que ce n'est pas si grave que ça après tout, mais ce sentiment, c'est peut-être... le malin qui cherche à me dévoyer.
Il ferme l'église et rentre chez lui, plongé dans ses pensées. Lors de la confession, les gens lui avouent peu. Mais derrière leur confidence embrouillée, il perçoit la concupiscence, la jalousie des énergies troubles, en somme d'une portée redoutable. Comment un prêtre peut-il endiguer tout cela ? Parfois, il lui arrive même de douter du pouvoir de la prière. Depuis un moment déjà, il observe que Jeanne s'attire des ennuis dont elle n'est ni au courant ni responsable. Il lui a conseillé de ne plus fréquenter la vieille Marthe. Il sait que les visites de la petite chez Marthe sont perçues d'un mauvais œil. On cancane. La vieille Marthe n'est certainement pas une sorcière. Ce n'est qu'une femme seule, jamais vraiment accepté par certains. Pourquoi ? Pour sa solitude. Elle venait encore à la messe autrefois. Puis, les harassements ont commencé. Discrets d'abord, puis contagieux, banalisés, jusqu'à ce qu'elle cesse de venir finalement. Il ne faudrait pas que Jeanne suive le même chemin. La nuit est tombée. Les rues sont désormais vides. De temps en temps, le prêtre croise quelqu'un. On lui fait un signe de salutation poli, puis on continue son chemin. Avant, les gens s'arrêtaient pour bavarder ou pour lui poser des questions. Maintenant, ils sont pressés de rentrer. Qu'est-ce qui se passe ?
Un peu partout dans le pays, et peut-être même dans le monde entier, il y a comme une folie qui s'empare des gens. Ils commencent à se méfier les uns des autres et à jouer à la chasse au diable. Ils ne se réunissent plus que pour dénoncer, faire arrêter n'importe qui. C'est pas ça la foi.
Ils ont réquisitionné l'ancienne abbaye. Là où avant, Il accueillait les plus pauvres malades. Ils ont chassé tout le monde et procédé à des aménagements. On ne sait pas trop dans quel but. Il n'a plus le droit d'y aller, à moins de se joindre à leurs activités sinistres. Certaines nuits, il y a du monde. Il paraît que le baron et le commissaire de l'évêque sont des habitués de ces réunions. Il en a fait part à l'évêque. L'évêque n'a jamais répondu. Pourquoi n'intervient-il pas ? Il paraît que certaines nuits, on y entend des cris.
Demain, je partirai pour m'en entretenir avec le confrère de la ville. C'est une marche de 2 jours, mais il faut que je sache ce qu'il en pense. Peut-être que je suis le dernier à penser ainsi.
Un peu plus bas dans la rue, le prêtre aperçoit 2 personnes. C'est Jeanne qui se fait harceler par le baron. Le baron était un homme d'une 30aine d'années. Il ne vient jamais à la confession. En revanche, 2 fois par an environ, il assiste à la messe avec la baronne. À chaque fois, tout le monde est ébloui par la richesse de leurs vêtements et de leur parure. Après, pendant 2 semaines, on ne parle que de ça. Aujourd'hui encore, il porte des vêtements très élégants. Seules ses bottes sont un peu crasseuses. Il est manifestement en état d'ébriété. En ricanant, il essaye de saisir Jeanne par la hanche.
« Mademoiselle charmante, oserais-je vous offrir mon bras et vous raccompagner dans votre modeste bicoque ?»
Jeanne se dégage.
« Je rentre seule, je n'ai besoin du bras de personne. »«
Tu ne regrettes pas ton travail et ton logement dans mon château ?»
Il tente de lui toucher la joue, mais Jeanne écarte sa main d'un mouvement sec.
« Si tu avais été un peu plus obéissante, je t'aurais gardée. Mais je pourrais revenir sur ma décision. Allez, si tu te montres un peu gentille. »
Il l'enserre et cherche à l'embrasser, mais Jeanne se débat furieusement. Le prêtre saisit le bras du baron. Le baron sursaute et se retourne, d'abord surpris puis furieux. Le prêtre dit à Jeanne d'une voix très calme en regardant le baron droit dans les yeux.
« Ne vous ai-je pas dit de rentrer au plus vite chez vous, mon enfant ? Ce serait dommage que vous vous fassiez importuner dans la rue en rentrant de l'église. »
Jeanne se sauve. Le baron libère son bras et lance au prêtre un regard chargé d'une haine à peine contenue.
« À votre place, je ne me mêlerai pas de ce qui ne me regarde pas. D'ailleurs, dans les milieux cléricaux, on commence à douter sérieusement de votre loyauté. »
Il fixe le prêtre, tentant de l'intimider du regard. Le prêtre ne répond pas et soutient son regard. Finalement, le baron baisse les yeux et s'éloigne en sifflant une insulte. Quelques heures plus tard, le baron rentre au château. Il a noyé sa frustration dans l'alcool, dans une taverne mal famée. La baronne l'attend au bout d'une longue table. Elle a renvoyé les servants. Sa bouche est figée dans un rictus maussade, son regard est perçant.
« Je vous ai attendu pour le dîner. »
Le baron ne répond pas et se sert à boire. La baronne se force à sourire.
« Il paraît que vous avez encore parlé à la petite traînée. Ne l'avons-nous pas congédiée ?»
Le baron a faim. Il commence à manger un bout de gigot froid. Elle tente encore un sourire pas très convaincant.
« Cela fait longtemps que vous n'êtes pas venu dans mes appartements. »
Le baron regarde dans sa direction avec ce regard familier. Légèrement fuyant, comme absorbé par quelques projets hédonistes, embué d'alcool. Pas de réponse.
« Ah oui, vous ne souhaitez pas parler, je sais. Mais le temps passe, et vous n'avez toujours pas d'héritier. »
Le baron finit par répondre la bouche pleine.
« Le temps passe, en effet. Je me souviens d'une époque où vous étiez moins pressé d'avoir un héritier. » Vos appartements m'étaient fermés pendant 1 mois.
Le regard perçant de la baronne devient froid.
Savez-vous que la petite traînée fricote avec le jeune Volpert et fréquente la vieille sorcière?
Pendant quelques secondes, le baron mâche moins vite. Puis il se resserre à boire. Il n'a pas envie de parler, c'est vrai. Mais comme il a envie de changer de sujet, pour des raisons encore un peu floues, il reprend la parole. Le ton de la discussion se dégrade davantage. Chapitre 5. Les enfants s'approchent des champignons géants. Ils sont colorés, un peu luisants, certains ont plusieurs têtes. Arthus veut les toucher, mais Gabriel retient sa main.
Je n'en ai jamais vu des comme ça. Belle-mère ne m'en a jamais parlé. On ne doit pas y toucher. On va d'abord les lui montrer.
Arthus examine un champignon vert-marron de plus près.
J'ai trop faim, je vais en goûter un, juste un morceau.
Il en arrache un bout et commence à le manger. Gabriel le regarde, inquiète.
Ça a l'air très bon.
Tout d'un coup, il se saisit à la gorge, écarquille les yeux, ouvre la bouche et fait semblant de suffoquer. Gabriel sursaute puis elle soupire.
Arrête, t'es bête!
Il arrache un autre bout et le tend à Gabriel. Elle fait le signe de la croix et le mange. Très vite, le paysage autour d'eux se met à changer. Les enfants se trouvent incrédules dans un décor paradisiaque. Des arbres portant des fruits géants, des fleurs gigantesques, un ruisseau de lait, des oiseaux exotiques. Enchantés, ils tournent sur eux-mêmes, ne savent plus où regarder, rient sans pouvoir s'arrêter, ils en oublient leur faim. Arthus dit
« Regarde, j'avais encore des bouts de pain dans ma poche. Bah !»
Il rit et jette tous les cailloux par terre. Ils avancent dans ce tableau d'Éden en suivant un petit sentier qui serpente le long d'une colline. La montée ne leur demande aucun effort. Une curiosité joyeuse semble leur donner des ailes. Ils arrivent au sommet. La colline surplombe un profond ravin. De l'autre côté, le même décor paradisiaque s'étend jusqu'à l'horizon. Arthus murmure.
Ah, si on pouvait voler maintenant!
Gabriel rit, mais son rire vient d'en haut. Arthus se tourne vers Gabriel et n'en croit pas ses yeux. Elle s'est élevée dans les airs. Elle plane à 2 mètres au-dessus du sol.
Viens aussi! Viens, c'est facile!
Arthus ne sait pas ce qu'il faut faire, mais il a très envie de la suivre. Et tout d'un coup, ça y est, il flotte lui aussi dans l'air. 2 mètres, 5 mètres. Ils n'ont même pas peur de tomber. En se tenant par la main, ils survolent le ravin profond. Les enfants ne s'étonnent pas de ce qui leur arrive. Le bonheur d'un rêve devenu réalité? Oui, pourquoi pas? Ils gagnent l'autre côté et continuent à voler au-dessus de l'immense forêt psychédélique. Arthus montre au loin une clairière avec une petite maison. Ils s'y dirigent et atterrissent devant. C'est une maison en gâteau. Brusquement, violemment, la faim des dernières semaines se réveille. Sans un mot, ils se précipitent vers la maison, arrachent et dévorent de grands bouts de gâteau. Ils n'ont jamais rien mangé d'aussi bon. Cela ne fait pas longtemps qu'ils se gavent. Ils n'ont certainement pas fini lorsqu'ils entendent une voix de femme derrière eux.
Tiens, voilà 2 invités.
Ils se retournent. Devant eux se tient une femme d'une 60aine d'années, au port noble, vêtue d'une robe noire à l'élégance sobre. Elle porte un cache-œil serti de quelques fines pierres précieuses. Pendant un bref instant, Arthus croit voir leur défunte mère, vieillie, mais étrangement belle et élégante. Il jette un regard incrédule à Gabriel. Elle a l'air de voir la même chose. La dame les regarde avec un sourire bienveillant. D'une voix sombre et douce, elle dit
« Vous m'avez l'air affamé, entrez donc !»
Les enfants, tout heureux et sans aucune timidité, entrent dans la maison en gâteau, curieux des merveilles qui les attendent sûrement à l'intérieur. Dès qu'ils ont mis un pied dedans, les hallucinations se dissipent. À l'intérieur, ce n'est plus du tout une maison en gâteau. Il y a des mouches, des toiles d'araignées. Dans la pénombre, on distingue un grand four éteint, une cuisinière, une cage, des chaînes, une grande table couverte d'outils étranges. Ils se retournent vers la femme derrière eux. Elle aussi a changé. On reconnaît toujours la belle dame, mais elle est maintenant vêtue de haillons. Son corps est courbé et décharné, son visage défiguré par d'horribles cicatrices. À la place du cache-œil précieux, on voit un œil crevé. Son œil valide, vif, narquois les fixe. Sans les quitter du regard, elle ferme la porte à clé. Puis elle dit, et étrangement, sa voix n'a presque pas changé.
Vous avez aimé mes champignons.
Gabrielle est prise d'un vertige violent. Elle attrape la main d'Artus. Les enfants s'évanouissent tous les deux. Chapitre 6. Ils sont venus chercher Jeanne en fin d'après-midi dans sa cabane des bas quartiers.
Nous sommes envoyés par l'Alliance contre le Mal au service du Seigneur. De graves accusations ont été portées contre toi. Tu dois comparaître devant le tribunal. Si tu corrobores les faits, tu as une chance de t'en sortir.
Après l'avoir ligoté et attaché à un cheval, il remonte en selle et la traîne derrière eux. Pour plus de proclamations, ils ont choisi de traverser le village. Des regards. Dans la rue, derrière des rideaux, à travers des portes entrouvertes, des regards. Dans le regard des hommes, il y a la concupiscence dont elle a l'habitude. La concupiscence à laquelle s'ajoute, chez certains, l'agressivité du prédateur. Chez d'autres, la mélancolie du perdant. Dans le regard des femmes, c'est la jalousie et le mépris. Depuis longtemps, Jeanne a appris à esquiver ses regards. On baisse les yeux pour éviter des problèmes et on emporte le malaise en silence. Mais aujourd'hui, elle perçoit quelque chose de plus. La satisfaction et la fascination face au malheur qui s'est abattu sur quelqu'un d'autre. La peur qu'elle leur inspire et la peur de ce qui l'attend peut-être. Certains font le signe de la croix. Jeanne baisse les yeux, l'air coupable. Elle entend d'autant mieux les commentaires. Jamais elle n'aurait soupçonné autant de mépris venant de gens qui ne lui ont jamais adressé la parole, qui ne la connaissent même pas. Dans l'anonymat de la foule, les gens osent enfin avoir une opinion. Grisés par leur courage, ils se lancent dans une surenchère de vociférations. Jeanne sent la peur monter en elle. Où est le prêtre, nom de Dieu ? Dans la foule, elle aperçoit Geoffroy le meunier. Geoffroy lui avait proposé quelques ouvrages au moulin, à condition qu'elle se montre gentille. Si tu te montres gentille, combien de fois elle a entendu dire ça ? Depuis qu'elle a perdu ses parents, à l'âge de 11 ans. Très tôt, Marthe lui avait expliqué ce que cela voulait dire. Marthe ne lui avait jamais imposé quoi que ce soit. Pour Jeanne, le choix avait été instinctif. C'est pour ça qu'elle n'a pas eu ce travail et qu'elle en a perdu d'autres. Maintenant, un doute surgit en elle. Peut-être qu'elle a fait le mauvais choix. Peut-être qu'elle n'en serait pas arrivée là si elle s'était montrée gentille. Peut-être que tout cela est de sa faute. Plus loin dans la foule, elle aperçoit Aldara. La belle Aldara, elle, s'est déjà montrée gentille à plusieurs reprises d'après ce qu'on dit. Aujourd'hui, étrangement, son regard n'est pas comme celui des autres. Avant qu'Aldara ne se détourne pour sortir de la foule et partir en courant, Jeanne a vu clairement une larme sur son visage. Elle en est tellement surprise que pendant une seconde, sa peur se fige, avant de revenir en force, redoublée par ce mauvais présage. Sorti du village, le petit cortège arrive devant l'ancienne abbaye. Les hommes armés ont officiellement interdit aux villageois de les suivre. Jeanne peine à respirer. Ils l'ont fait courir jusqu'à l'épuisement. La peur qui augmente toujours plus en elle lui serre la gorge et les entrailles. Le portail de l'abbaye s'ouvre. Deux hommes armés en sortent, en escortant un Volpert blessé, l'air hagard. Ils le relâchent. Volpert aperçoit Jeanne, fuit son regard et s'en va très vite, presque en courant. La nuit commence à tomber. Jeanne, toujours ligotée, est traînée dans une cour puis dans des escaliers. On la fait descendre dans un donjon. Dans une grande salle à la lumière des torches, une douzaine de personnes cagoulées l'attendent. Les torches jettent une lumière vacillante sur un autel, des tables, des instruments de torture, des bouteilles. On la force à s'agenouiller devant l'assemblée et l'autel. Elle entend ses dents claquer. Une cérémonie étrange débute alors. Un homme s'avance et marmonne un discours à la fois solennel et confus. Elle n'y comprend pas grand-chose. Elle a l'impression d'assister à un spectacle. Il y a des mots en latin. Elle croit entendre des noms comme Jeanne d'Arc et Gilles de Rais. Parfois, les autres hommes répondent en chœur. Pendant un moment, elle a l'impression de ne pas être au centre du rituel. Peut-être qu'on l'a amenée ici simplement comme figurante. Le décor, en quelque sorte. Oui, peut-être qu'ils vont abuser d'elle. Mais qu'ils vont la relâcher après. Soudain, un des hommes cagoulés lui adresse la parole.
Jeanne, tu as entretenu des contacts avec une vieille sorcière. On t'a vu voler avec elle au-dessus de la forêt. Tu as essayé d'entraîner le jeune Volpert dans tes projets infâmes de sorcellerie. N'essaye pas de nier. Tu as été reconnu par plusieurs témoins. Est-ce que tu admets tes crimes ? Tu pourrais ainsi alléger ta peine.
Jeanne commence à pleurer.
Ce n'est pas vrai. Je n'ai rien fait de mal. Je vous en supplie, croyez-moi. Laissez-moi partir.
Les hommes murmurent entre eux. On fait signe à un bourreau. Le bourreau porte une cagoule qui cache le haut du visage, ne laissant voir que ses yeux et sa bouche. Ses lèvres étroites sont dénuées de la moindre expression. Deux hommes saisissent Jeanne qui essaye de se débattre malgré ses mains ligotées. Ils attachent Jeanne sur une planche horizontale. Le bourreau approche. Jeanne s'adresse à un des hommes cagoulés aux bottes crasseuses.
Monsieur le baron, pitié! Je ferai tout ce que vous voulez!
Elle s'interrompt net. Son regard se fige dans l'horreur de ce qu'elle voit derrière les hommes cagoulés, dans la pénombre du donjon.
Vous avez...
Elle commence à hurler. Pourtant, le bourreau n'a pas encore commencé son travail. Et malgré tout son savoir-faire, il n'arrivera pas à la faire hurler plus fort. Cette nuit, le baron est encore entré très tard au château. Lorsque la baronne l'a vu arriver, hirsute et lubrique, elle savait que ses plans étaient en train de se réaliser. Mais elle a quand même pris un peu peur. Elle a senti que là, ce serait mieux qu'il se calme un peu. Après tout, on n'était pas un jour près. Elle a tenté de se retirer dans ses appartements, mais il l'a vite rattrapée.